101, place aux associations.
Et à 1901, aujourd'hui, Avenir de Roux. Bonjour à tous.
Bonjour. Donc, nous recevons ce matin le nouveau président de l'association Avenir de Roux de Chalon et son agglomération, on va dire. Donc, monsieur David Berthoud et madame Véronique Porcel, ancienne présidente, qui ne l'est plus, mais qui est toujours membre active de l'association. Bonjour,
bonjour
à vous.
Bonjour.
Voilà. Donc, votre association a été créée, si j'ai bien lu, en 1996. Et maintenant, dans celle de Chalon et son aglo, compte à peu près une centaine d'adhérents.
Oui, un tout petit peu moins, mais on n'en est pas loin. Oui. Surtout qu'il y a des adhésions famille. Donc, une famille, ça compte.
Ah oui,
plus
trois
de
vélos,
membres.
Ça compte pour un quand c'est
voilà,
la même famille.
Voilà, c'est ça, exactement.
Voilà. Et est-ce que vous qui êtes plus ancienne, je pense, dans l'association que M. Berthoud, quels étaient les objectifs au départ de cette
association?
Voilà.
Eh bien, ça a été créé par un lycéen en 1996, donc un jeune qui voulait faire du vélo dans Chalon et qui, à l'époque, Chalon n'était pas du tout équipé pour. Donc, il s'est dit, ben voilà, il va falloir militer pour ça. Et bon, il est resté quelques années à la présidence, le temps de partir faire ses études ailleurs. Ensuite, Madame Damanier a repris la présidence et puis j'ai suivi derrière. Donc, depuis 96, quatre présidents. Je trouve que je pense que c'est intéressant de savoir ça parce que ça veut dire que chaque président s'est engagé assez longtemps.
Oui, ce que j'allais vous dire. Il y a une certaine durée dans les mandats.
Oui, voilà. Et puis ça permet de créer des vrais liens avec les décideurs, etc. Donc, c'est intéressant.
Alors, ça, on en parlera. C'est important, les liens avec les décideurs, parce qu'on voit bien un petit peu... Bon, je vous ai demandé quel était l'objectif, mais je m'en doutais un peu. Mais qui était à l'origine, en fait, de la création de l'association? On sait que le vélo, ça se développe quand même. Enfin, l'utilisation du vélo se développe dans toutes les villes. Mais il y a quand même beaucoup de freins.
Si je peux me permettre d'interrompre, on parle du vélo essentiellement ou des développements propres?
On parle des deux, c'est-à-dire qu'on parle du développement propre pour permettre aux gens de faire du vélo. Et je précise, parce que je ne l'ai pas dit bêtement, on parle bien de vélo au quotidien. C'est pas du vélo. Enfin, voilà,
nous, mais ce n'est pas juste la randonnée du dimanche.
Voilà, c'est ça. Le cœur de cible de notre association, c'est le cycliste qui va aller chez le médecin, au travail, faire du sport, etc., à vélo, et qui donc a besoin de se déplacer en sécurité et a besoin d'aménagement, effectivement.
Oui, bah oui, parce que si on parle de vélo, effectivement, c'est pas juste la réunion de cyclistes qui parlent de leurs expériences. C'est aussi, vous parliez d'intervenir, je vois que vous participez à la commission des circulations actives de Chalon Agglo. Alors j'avoue que je ne connais pas cette commission. Vous pouvez nous en dire deux mots? Ou trois mots d'ailleurs?
Eh bien, écoutez, c'est pas très compliqué. C'est une commission qui est mise en place par Chalon Agglo, puisque c'est Chalon Agglo qui doit développer la politique du cyclable sur l'agglomération, et composée de tous les gens qui sont importants pour ça, c'est-à-dire les élus à la voirie, les élus à la mobilité. Je pense à Madame Araghetli qui est très très impliquée au niveau de la mobilité douce.
Douce, c'est-à-dire la marche à pied, le vélo,
la trottinette. Voilà. C'est vrai qu'on parle beaucoup. Oui, si, si,
la trottinette électrique aussi.
La trottinette électrique en fait partie.
Et le vélo électrique.
Et le vélo électrique. Voilà, oui. Ça fait partie des mobilités douces. L'idée, c'est de ne rien rejeter ou rejeter à minima dans l'air
des
polluants, etc. Donc, tous ces modes-là en font partie. Bon, j'avoue qu'on parle. Enfin, on parle aussi de trottinette, mais beaucoup vélo, plus que marche, finalement, par exemple.
Bah oui, je me doute, parce que finalement, la marche, les équipements sont là. Il y a des trottoirs. Enfin.
Eh bien, écoutez, je pense qu'il y a dire quand même, il y a des choses qui sont absolument aberrantes, parfois dans certaines rues, des trottoirs qui font 30 cm de large, des passages piétons qui sont entre deux places de parking. On ne voit pas comment une personne en fauteuil roulant, ou une dame avec une poussette, ou un monsieur avec une poussette pourrait traverser à ces endroits-là.
Oui, ça, je suis d'accord. On est piéton seul, voilà, ça va. Dès qu'on est, par exemple, handicapé, il y a de gros problèmes sur certains trottoirs. Ils ne peuvent pas passer, clairement. Mm-hmm. Ou alors, pour descendre, il n'y a pas de bateau.
Enfin, mais il y a des choses
à voir. Et poussette, pareil, oui, on est d'accord. Donc là, vous êtes plutôt sur le vélo, les trottinettes, vélo électrique, hein, comme vous disiez.
Le vélo fait partie intégrante du vélo. Enfin, le vélo électrique fait partie intégrante
du vélo.
C'est un vélo.
Il n'est pas polluant.
Et puis, il faut pédaler pour avancer. Donc, voilà.
Donc, vous faites partie de cette commission. Alors, est-ce que vous qui êtes là quasiment depuis l'origine de l'association, bon, elle fait partie de la Fédération française des associations
des usagers
la bicyclette.
Voilà, la FUB.
Ça, j'aime bien le nom. Fédération française des associations d'usagers de la bicyclette.
Fédération française des usagers de la bicyclette. Pas des associations. Mais
ah
c'est
ben
pas
je sais
grave.
Pas, c'est ce que j'ai trouvé. Bon, ok, des usagers, c'est mieux. Des usagers. Et en fait, il y a une évolution quand même de l'utilisation du vélo en France et à Châlons. Vous avez des chiffres ou...
C'est difficile de chiffrer pendant des années. Depuis 2011, on fait des comptages trois fois par an sur des, plusieurs dizaines de points dans Châlons. On voit qu'il y a une évolution du nombre de cyclistes. Celui-ci augmente. Bon, après, c'est très difficile. C'est, voilà, on fait des comptages sur une demi-heure, qu'on ramène à une heure. Ça, c'est pas très scientifique, hein, c'est un peu artisanal.
Non, mais
ça nous permet de voir une évolution.
Une évolution.
Une grosse
positive.
Évolution positive, oui, oui, du nombre de cyclistes, c'est certain.
Parce qu'en fait, je regardais un petit peu au niveau national, on a des disparités énormes. Par exemple, il disait... à Strasbourg, il y a 49% de déplacements à vélo ou trottinette. Je pense qu'ils comptent peut-être les trottinettes, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, hors voiture, mm-hmm. moto, et voilà. Rennes ou Metz, c'est pareil. À Caen, il y en a 17%. Donc, effectivement, il y a des mentalités. On en parlait hors antenne tout à l'heure. L'Alsace, par exemple, Strasbourg en particulier, ont toujours eu une volonté. Il y a toujours eu des cyclistes. On parlait aussi, par exemple, de... Alors, là, on n'est plus en France, mais vous prenez une ville comme Amsterdam. Quand mm-hmm. vous y allez, vous avez une majorité de cyclistes. Beaucoup plus de cyclistes que d'automobilistes. Donc, oui. c'est aussi des cultures, je pense.
Je ne sais pas si c'est le cycliste qui crée l'aménagement ou si c'est l'aménagement qui crée le cycliste. C'est toujours très difficile à dire. Mais c'est vrai qu'il y a dans ces pays, dans ces villes, une vraie volonté de faire de la place pour le cycliste.
Mais je pense que c'est une culture aussi écologique qu'on n'a peut-être pas partout en France ou dans d'autres pays.
Ouais, aux Pays-Bas, il y avait aussi, je me souviens des archives, je ne me souviens pas d'avoir vécu, mais je me souviens qu'au tout début des années 70, il y a eu des grosses manifestations où les gens s'allongeaient carrément dans la rue parce qu'ils trouvaient que la voiture était dangereuse pour leurs enfants, qu'il y avait des accidents de voiture et qu'ils voulaient revenir à une circulation plus douce. Donc là, c'était pas tellement l'écologie, en tout cas, au début au Danemark,
oui, on peut pas
c'était
appeler ça
plus
écologie,
voilà, mais après effectivement le sentiment écologiste existe aussi.
Voilà, donc sur Châlons, vous participez donc à certaines instances, dont la fameuse commission des circulations actives. Et est-ce que vous avez d'autres, quel est votre rôle en fait? Vous avez un rôle, quelles sont vos actions finalement d'avenir de roue?
Moi, je peux peut-être...
Oui, allez-y, monsieur Berthoud, nouveau président, allez-y.
Merci. Écoutez, je crois que avant tout, on est quand même une association de plaidoyer, c'est-à-dire qu'on est là pour porter la voix des usagers et les représenter notamment auprès des collectivités, comme au sein de cette commission, et puis également être porte-voix dans les médias, hein, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc ça, je pense que c'est vraiment le cœur de l'activité et qui est vraiment important dans le quotidien de nos engagements. Après, il y a évidemment aussi des actions qui sont menées plus directement, des opérations peut-être un petit peu plus ponctuelles, hein, comme par exemple la participation à la foire de Châlons, qui est un
événement. Et vous avez un stand.
Alors à la foire de Châlons, c'est plus qu'un stand. Oui. En réalité, on tient le parc à vélo. Vous savez toutes les personnes qui souhaitent accéder à vélo à la foire peuvent y stationner leur vélo.
Oui, ça je vois bien où ils sont.
Jusqu'ici, ils avaient en contrepartie, même une entrée gratuite à la foire, et donc on gère tout ce dispositif, qui est quand même quelque chose, hein, puisque la foire, ça draine beaucoup de monde et de plus en plus de cyclistes. Tout à l'heure, vous évoquiez le nombre de cyclistes dans Châlons. On peut le mesurer aussi par la taille qui va en augmentant du parc à vélo de la foire.
C'est un bon indicateur.
Voilà. J'ajoute d'ailleurs au passage aussi que moi, personnellement, j'ai quitté l'agglomération de Châlons quelques années. Alors, je ne suis pas allé très loin parce que je suis allé dans les Ardennes, mais pour des raisons professionnelles. Et en 3-4 ans, par rapport à cette notion de fréquentation, je peux vous garantir que dans Châlons, j'ai vu la différence quand je suis revenu. J'ai eu l'impression de voir des cyclistes partout et ça a été...
Mais on en voit de plus
très
en plus,
agréable.
C'est clair.
Ouais, ouais. Si je peux me permettre d'intervenir encore une fois sur la foire de Châlons, je me souviens, alors moi je suis motard personnellement, et il y a quelques années, les motards avaient leur place devant la foire, avaient leur parking, et aujourd'hui je vois aucun emplacement réservé aux motards. Alors qu'est-ce qui se passe?
Rien, c'est juste que les motards...
C'est une volonté d'écarter les motards.
Non, les motards, enfin bon, pour en avoir discuté, parce qu'effectivement certains motards sont venus nous en parler, ouais. On est bien placés pour recevoir pas mal de doléances. En fait, quand quand j'ai posé la question, on nous a dit, mais les motards, c'est un véhicule motorisé, ils font comme toutes les voitures, ils vont se garer au parking, c'est Saint-Christophe, là, je sais plus quoi, et puis ils viennent avec les navettes, pourquoi pas. Alors bon, voilà, moi, je vous avoue que je n'ai pas creusé le sujet, je n'étais pas trop concerné. J'ai juste donné la réponse.
Vous n'y êtes pour rien.
Oui, et puis ça va, les motards, ils polluent, donc de toute façon, pareil que les voitures, c'est...
Donc
tant pis pour vous.
Pardon, pour reprendre le fil, donc par rapport à ces actions un peu plus directes, on va dire, de l'association, vous avez aussi la participation, enfin nous avons aussi la participation à des opérations de sécurité routière. Hein, puisque
alors j'ai vu qu'en novembre 2024, vous aviez fait avec la police municipale et la police nationale l'opération cycliste briller. Alors ça, je ne connaissais pas.
Oui. Je vais laisser Véronique en parler.
On met ça en place pareil avec la FUB, donc avec la Fédération des usagers de la bicyclette. C'est elle qui avait lancé l'idée. C'est-à-dire au moment où il y a un changement d'heure à l'automne, où la nuit tombe beaucoup plus tôt, rappeler aux cyclistes qu'il faut être visible, sinon on est plus en danger. L'idée, c'est d'arrêter. En fait, chaque année, on va dans un collège ou dans un lycée, puis après, on se met au centre-ville et on arrête les bicyclettes. Les bicyclettes qui ne sont pas équipées, même celles qui sont occupées. En fait, l'idée, c'est on équipe les bicyclettes qui ne sont pas équipées de catadioptres de roues, de feu avant ou arrière, selon ce qui manque. Et puis, on donne un caramel ou un chocolat à ceux qui sont bien équipés. Il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas de la partie. Et puis, depuis quelques années, plus la police municipale, mais on arrête aussi les trottinettes, parce qu'elles ne sont pas toujours éclairées, parce qu'elles ne sont pas toujours en règle avec la vitesse. Enfin bon, pareil pour les cyclistes qui roulent sur le trottoir. Enfin voilà, il s'agit d'une opération de prévention. Donc même si la police est là, on est juste dans le rappel à la loi et les explications. Et puis dire, voilà, même le gilet jaune qui n'est pas obligatoire, n'hésitez pas à le mettre. C'est ça qui vous permet d'être visible aussi.
C'est vrai que moi, ce qui me frappe, parce que je roule des fois aussi, je suis rémoise, donc à Reims, de temps en temps, je prends ma voiture. Et ce qui me frappe, par exemple, le matin, vous avez des trottinettes qui ne sont pas éclairées, des cyclistes qui ne sont pas éclairés, qui ne restent pas... En fait, je crois que les automobilistes, les motards, les vélos et tout, il y en a plein qui ne respectent pas les règles. Enfin, je veux dire, on n'est pas mieux ni les uns ni les autres. Et donc, c'est vrai, c'est très dangereux. Alors, surtout ceux qui ne sont pas éclairés. Moi, l'autre jour, il y a une trottinette qui m'est passée devant, je ne l'avais pas vue. Au crépuscule... Et c'est vrai que c'est bien ce genre d'opération. Donc vous parliez de ça aussi. D'autres opérations aussi. Je sais pas. Il y a la foire. Donc ce type d'opération cycliste briller.
Alors il y a l'organisation et la participation à la fête du vélo qui malheureusement cette année ne se
la fête du
pas.
Vélo ça existe.
C'est ça, oui, ça existe.
Je savais pas.
Au mois de mai, c'est ça.
Ça dépend des dispositions.
C'est national la fête du vélo, ou c'est vous qui le.
Bon, je pense que ça se fait ailleurs, mais c'est Avenir de Roux qui avait mis ça en place.
C'est une initiative, d'accord. Et donc la fête.
Et donc,
du vélo.
Alors malheureusement cette année, elle ne sera pas organisée, mais nous sommes déjà à réfléchir à ce qu'on pourra faire en 2026 pour en faire une belle édition. Donc voilà ce type d'opération à laquelle l'association participe. Est-ce qu'on peut ajouter d'autres...
Le marquage bicycode peut-être. Le marquage bicycode, c'est-à-dire que c'est un système qui a été mis en place par la FUB aussi à l'origine et qui permet de faire un gravage sur le vélo. Qui n'est pas anti-vol, évidemment. Un gravage n'empêche pas le vol, mais il permet aux forces de l'ordre qui retrouvent le vélo volé de contacter directement le propriétaire, parce que le problème aussi des forces de l'ordre, c'est d'avoir des stocks entiers de vélos volés retrouvés, mais dont ils ne connaissent pas l'origine.
Donc ça s'appelle marquage
bicycode.
D'accord.
Et donc, c'est quelque chose qui marchait très très bien. Et depuis 2021, le marquage est obligatoire pour la vente des vélos, à la vente des vélos neufs.
D'accord.
Donc ceux-là n'ont plus besoin d'être marqués, donc on a un petit peu moins de marquages qui se font, mais c'est important. Et alors je précise quand même, parce que la Chalon Agglo intervient, c'est Chalon Agglo qui a acheté le matériel, qui est très onéreux, et qui achète, parce que chaque numéro a un coût en fait, il est acheté auprès de la FUB, et c'est Chalon Agglo qui finance tout ceci, et puis nous, de notre côté, on met ça en place bénévolement, on grave les vélos, on explique aux gens comment ça fonctionne, de façon bénévole, ce qui fait que c'est gratuit pour les Chalonnais et les gens de l'Agglo.
Donc c'est un peu l'équivalent du numéro de série qui figure dans les moteurs des automobiles, peut-être ?
Peut-être,
qui permet d'identifier un véhicule qui a été dérobé.
Parce que
C'est possible. Franchement, je sais pas comment fonctionne le numéro de série, donc je ne
Non, mais si, pas c'est ça. C'est une façon d'identifier le véhicule, le
propriétaire. Ouais. Le propriétaire, sûr.
Et justement, ça fait partie des questions que je voulais vous poser, parce qu'il y a, je lisais aussi que, bon, je pensais à les freins à l'usage du vélo. Alors, il y a plusieurs choses. Hein, on pourra en parler, le sentiment d'insécurité dans les villes, les aménagements qui sont pas forcément optimaux, si j'ose dire. Et, mais il y a aussi le vol, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vols de vélo, quand même, non? C'est...
Alors moi j'ai personnellement j'ai plutôt l'impression que sur Chalon ça reste quand même un sujet
un épiphénomène.
Bah épiphénomène je dirais pas ça parce que personnellement j'ai déjà fait voler quand même deux vélos.
Oui.
Mais enfin en ayant pratiqué le vélo sur 10-15 ans et en n'étant pas toujours non plus complètement voyez irréprochable sur la manière de protéger mon vélo donc voilà effectivement mais sinon j'ai bon, après c'est vrai que c'est plutôt une impression il faudrait
Il n'y a pas de chiffres, c'est ça le problème. Reparler, oui, on n'arrive pas à avoir de chiffres.
Alors moi j'ai trouvé un chiffre sur internet. Hein. Donc il y a eu une enquête. Alors j'ai pas la date de l'enquête, mais bon l'année avant l'enquête sur un Français sur cinq s'est fait voler au moins une fois son vélo. 17%.
Ouais.
Bon c'est pas tout à fait un Français sur cinq, enfin presque. Et 4% plus d'un vélo. Donc ça veut dire, bon, alors après, on peut se faire voler une moto, une trottinette, mais bon, ça peut être aussi quand même, parce que c'est cher un vélo. Enfin, ça dépend quel
oui,
vélo.
Oui, voilà, c'est ça. Le problème, c'est pas tant que c'est cher. Si on se fait voler un vieux vélo, on a quasiment aucun remboursement. Et après, quand on rachète, effectivement, c'est cher. C'est là où l'intérêt de vraiment bien attacher son vélo. Il faut y penser. Acheter un antivol à 2 francs 6 sous, c'est un mauvais raisonnement.
Oui, parce qu'on va lui couper tout de suite.
Voilà, on me dit, mais oui, mon vélo vaut rien. Bah, le vélo, il vaut ce qu'il roule quand même. Donc,
bah oui.
Voilà. Donc, il faut vraiment pas hésiter à mettre 50€ dans un très bon antivol et puis attacher le cadre, la roue avant à un point fixe de façon à ce qu'il soit protégé au maximum. Pareil, si vous avez des attaches rapides à vos roues, n'hésitez pas à y mettre des boulons antivol. Je dis, c'est simple. Bon, enfin, après, je le fais pas moi, je le fais faire par mon mari. Mais
alors, voilà, ça, c'est quelque sérieux,
chose.
Hein. C'est pas sérieux.
C'est quelque chose. Ce qui est faisable quand même. Donc, mais puis l'antivol, là par contre, on peut le faire tout seul. Il ne faut vraiment pas hésiter à mettre le prix dans un antivol. C'est le prix de la sécurité. Même si je connais personnellement des gens qui se sont fait voler un vélo avec un excellent antivol parce qu'il y a des méthodes maintenant, hélas, qui permettent de le faire. Mais c'est quand même obligatoirement
c'est plus facile
de voler un vélo qui n'est pas bien attaché avec du matériel de mauvaise qualité qu'avec du bon matériel.
Non, mais c'est ça, par exemple, c'est vrai que ça peut être un frein, parce qu'un vélo, c'est plus facile à voler qu'une moto ou qu'une voiture, quand même, hein, et même à embarquer, si j'ose dire. Donc, c'est peut-être pas... Non, mais parce qu'en fait, je voulais regarder un petit peu s'il y avait des freins à l'usage du vélo. Et un des freins qui est cité aussi, bah, là, qui me paraît beaucoup plus important et peut-être plus prégnant, c'est le sentiment d'insécurité à cause des aménagements qui sont pas toujours idéaux, quoi. Alors ça, je sais pas, peut-être qu'on peut en parler, les pistes cyclables...
Alors moi, je serais pas forcément d'avis de partir tout de suite sur le sujet des infrastructures, parce que avant ça, il y a ce que vous évoquiez, c'est la cohabitation entre les cyclistes et les automobilistes, et puis cette capacité aussi à se mettre à la place de l'autre, à se comprendre et à se respecter sur la route. Moi, je pense que ça... C'est vraiment la base. Les infrastructures, évidemment, c'est un sujet majeur qui nous occupe beaucoup. Mais avant ça, il y a vraiment cette notion.
Tenir compte de l'autre, comme dans toute vie en société. Et c'est vrai que c'est ça qui pose problème.
Exactement.
Quand il y a j'ai déjà écouté des émissions à la radio sur. Je me souviens d'un Parisien qui disait de façon c'est clair, les automobilistes ne respectent rien, les trottinettes non plus et les vélos non plus. Alors lui, c'était carrément. Mais c'est ça.
Non, mais c'est ça. Et c'est vrai que bon, il y a une dissymétrie parce que les cyclistes sont tous automobilistes. Donc. Je pense que à mon sens en tout cas, ça ajoute une responsabilité au cycliste qui lui sait ce que c'est d'être automobiliste. À l'inverse,
les automobilistes ne sont pas tous cyclistes.
Les automobilistes ne sont pas tous cyclistes et ne savent pas ce que c'est de se retrouver dans la circulation avec un vélo. Et ça, c'est un peu plus gênant et malheureusement, la solution est compliquée à trouver, mis à part inciter un maximum d'automobilistes à prendre leur vélo ou à essayer le vélo.
Non, mais au moins se mettre à la place d'eux, parce qu'à la limite, c'est pareil pour les piétons. Vous avez des automobilistes qui laissent jamais passer les piétons sur un passage piéton.
C'est vrai, mais tant qu'on n'a pas roulé à vélo dans la circulation, on ne peut pas se mettre à la place de... Alors, il y a la FUB qui creuse quelque chose, c'est-à-dire qui milite auprès des députés pour que, dans le permis de conduire, il y ait 2 heures obligatoires à passer à vélo. pour qu'au moins tout le monde ait essayé pendant 2 heures de se mettre à la place d'un cycliste.
Alors moi, personnellement, je ne suis plus cycliste depuis mon adolescence, ce qui fait quand même une paire d'années, si j'ose dire. mais quand même, je fais très attention. Enfin, je sais pas, je dis ça, je suis pas là pour parler de mon expérience, mais quand même, on peut, même sans être cycliste, se rendre compte des dangers. Faire attention quand on double un cycliste, c'est-à-dire bien s'écarter. Enfin voilà, il y a des choses à minima, c'est logique quoi. Enfin.
Et puis c'est le code de la route.
Hein. Voilà. En plus.
Alors moi, d'expérience personnelle, puisque je roule aussi régulièrement avec des enfants, alors que ce soit les miens ou que ce soit des enfants que j'encadre dans une activité sportive, on constate aussi et très heureusement que les automobilistes ont quand même une attention particulière dès lors qu'il y a des enfants sur la chaussée. ce qui montre bien quand même une sensibilité et une vraie
possibilité. Parce que la plupart sont parents, ont eu des enfants. Alors là, on va peut-être s'interrompre pour faire une. Je demande à Monsieur Alain, le technicien.
Une petite pause musicale. En accord avec d'autres sujets. Si ça veut bien démarrer, bien sûr. C'est parti.
Bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer. Pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. La rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet. Changeons de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant, de n'être pas seul un instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait c'est pour demain, J'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette.
On reprend 1901, rendez-vous avec la bicyclette et donc Avenir de Roux.
Voilà, donc on était là, on parlait un petit peu des difficultés pour les cyclistes, et monsieur Berthoud, vous disiez en fait ce qui est très important, parce que moi je parlais des infrastructures, vous disiez, mais ce qui est surtout important, c'est que chacun tienne compte de l'autre. C'est-à-dire que les cyclistes tiennent compte, enfin les voitures tiennent compte des cyclistes, des piétons, que les piétons tiennent compte des cyclistes, etc. Donc c'est vraiment se mettre à la place de l'autre et essayer de vivre en bonne, comment on dit ?
Intelligence.
En bonne intelligence, voilà. Ouais. Je trouvais plus le mot, mais c'est vrai que l'intelligence chez moi, c'est pas... Mais pour en revenir, donc ça c'est important, effectivement, déjà un respect de l'autre et de... C'est ça, en fait. Mais il y a quand même les infrastructures, vous en pensez quoi ? Alors, je viens d'apprendre hors antenne qu'on disait bande cyclable et piste cyclable, et que ça n'est pas du tout la même chose, dites-nous.
Bah, la bande est sur la route, sur la chaussée, en fait, et la piste est sur le trottoir.
Ouais. L'une n'est pas matérialisée, enfin, ou simplement matérialisée
Si, les deux sont matérialisées. Les deux
sont matérialisées simplement par une ligne sur la chaussée.
Ça dépend. Ça dépend.
Qui ne protège absolument pas le.
Ah non, ça dépend. Ça dépend. Ouais, par exemple, effectivement, globalement, c'est de la peinture, mais sur des endroits qui, par exemple, l'avenue Patton qui va être aménagée et où il y a un flux de véhicules.
Il y a des bandes.
10-11 000 véhicules jour. Là, il y aura carrément des plots béton entre la piste cyclable et la.
C'est pas le cas partout. Hein.
Non, mais
c'est pas toujours non plus nécessaire. Et puis ça peut parfois être dangereux aussi. Donc voilà, après c'est du cas par cas.
Chez Carins, sur ce qu'on appelle la voie du Rouillat, où il y a un flot de voitures quasiment ininterrompu, effectivement il y a des plots, enfin toute une bande en béton là. Et moi aussi je me dis ça peut être dangereux des fois si la personne tombe, mais c'est quand même bien. Parce que là c'est vraiment bien matérialisé, parce que cette avenue là elle est très très fréquentée et ça peut être dangereux pour les cyclistes. Hein. Et sinon, donc il y a les pistes cyclables sur les trottoirs. Alors après, je sais pas, c'est aussi compliqué la bonne entente avec les piétons, parce qu'on voit bien qu'il y a des piétons qui sont sur la piste cyclable, clairement, ou qui s'arrêtent. Vous qui êtes cycliste, vous en pensez quoi ? Enfin.
Bah, alors moi d'expérience personnelle, effectivement, c'est un sujet, mais après c'est exactement comme avec les automobilistes, c'est-à-dire que il faut accepter aussi la présence des piétons et puis le fait que bon bah tous ne se comportent pas forcément de la manière optimale, et c'est chacun à prendre ses responsabilités. C'est vrai que quand on chemine sur une piste cyclable avec son vélo et qu'on a des piétons qui promènent leurs chiens ou qui sont sur la piste, bon, c'est assez désagréable, mais enfin on a une petite sonnette, on dit bonjour, on dit merci, et puis c'est comme ça que ça doit se passer. Et après les choses évoluent avec le temps, avec les pratiques, les piétons apprennent aussi à partager avec les cyclistes, savent qu'il y a de plus en plus de cyclistes, donc il faut faire de plus en plus attention,
je pense que c'est faut
éviter de venir sur les pistes cyclables systématiquement avec les chiens, les laisses, etc. Mais voilà, faut c'est aussi une question d'habitude, et je pense, moi, vraiment, je crois beaucoup au respect, au quotidien. C'est des petits gestes du quotidien, un merci, un bonjour,
un sourire,
ça joue énormément. Ouais, ouais. C'est vraiment ça auquel je crois le plus.
Si je peux me permettre de profiter de l'antenne pour expliquer aux automobilistes que la grande, grande majorité des pistes sur trottoir ne sont pas obligatoires pour les cyclistes. Elles sont obligatoires pour les trottinettes, mais pas pour les cyclistes. Je le dis parce que combien de fois je me suis fait interpeller, on dit, mais bon, attends, il y a la piste là-bas, allez-y. Mais il n'y a pas d'obligation. L'automobiliste, s'il veut aller à Reims, puisqu'on parle souvent de Reims en ce moment, il peut prendre la petite route, il peut prendre la nationale, il peut prendre l'autoroute. Il a le choix, ça lui paraît normal. Eh bien, le cycliste a le choix aussi, la piste ou la chaussée, même si elle n'est pas équipée de bandes cyclables. Et pourquoi ? Bah parce que parfois les pistes sont moins confortables, et puis parce que certains cyclistes se sentent
plus à l'aise sur la
chaussée.
Rue.
Voilà, c'est une question de choix personnel. Donc, je le répète, on peut le faire, on n'est pas en infraction dans ces cas.
Mais alors que moi, j'aurais pensé l'inverse.
Oui, je le sais, c'est souvent
connu. Étant souvent profane dans le domaine, j'aurais pensé que puisque vous aviez une piste, il fallait rester là-dessus.
Voilà, c'est pour ça que j'en profite pour faire passer le message.
D'accord.
Le cycliste peut être sur la chaussée. Le cycliste, aux yeux du code de la route, est un véhicule au même titre que la voiture.
Oui, bah, moi quand j'étais jeune, j'allais au lycée à vélo et tout ça dans Chalon, il n'y avait pas de piste cyclable. Mais disons qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins de voitures et que là maintenant, c'est quand même un peu plus... Mais moi, je suis d'accord avec vous, M. Berthoud, je pense que c'est une question de mentalité qui vont évoluer. Et on voit bien que dans toutes les villes, il y a de plus en plus de vélos. Enfin, bon, c'est clair. Oui. De toute façon, à terme, à mon avis, les voitures, elles ne seront plus dans les villes, hein, parce que c'est plus possible, quoi. Et donc, du coup, on va évoluer. La notion de respect, on va commencer à comprendre un peu les différentes attitudes des uns et des autres et peut-être les améliorer. Enfin, je pense que ça... Ça devrait bien évoluer, effectivement.
Alors, moi, j'ai tendance à dire, bon, en reprenant une expression un peu populaire, c'est-à-dire commencer par balayer devant sa porte, à mon sens, la première chose à laquelle doit s'intéresser une association comme la nôtre, c'est aussi la manière dont se comporte et la manière dont circulent les cyclistes en ville. Et là, c'est une des pistes aussi que nous allons creuser, c'est quel service peut-on proposer aux usagers pour les remettre en confiance et puis leur apprendre les bons réflexes à avoir lorsque vous êtes à bicyclette dans la circulation, de manière à ce que justement, quelque part, on ait des attitudes qui soient le plus exemplaires possible pour déjà faire notre part.
Oui, hein, mais je pense que il y a de tous côtés, il faudrait faire évidemment. Ça du côté des piétons et du côté des automobilistes.
Hein. On commence par balayer devant sa porte.
Voilà. Donc là, on arrive au terme de l'émission, je suis désolée. Ça a passé très vite. Juste une chose, vous avez donc une cotisation, j'ai vu, qui n'est pas très élevée. Je pense à des auditeurs qui seraient attirés par, par votre association. Donc, si j'ai bien vu, c'est 10 euros par an, c'est ça ?
C'est 10 euros pour une adhésion individuelle et 15 pour une famille.
Voilà. Et 25 euros pour les associations. Oui. Oui, vous avez aussi des associations partenaires, apparemment.
Mm-hmm. Oui, oui.
Donc, pour rappel, l'émission sera mise en podcast.
Oui, pardon, je peux insister
au contraire.
Vraiment sur l'adhésion. N'hésitez pas à nous rejoindre parce que vraiment on a besoin d'échanges, on a besoin de discussions, on a besoin de réflexions et tout le monde, n'importe quel usager potentiel même simplement qui s'intéresse au sujet est le bienvenu et pourra apporter sa pierre à l'édifice. Vraiment.
D'accord.
Nous accueillons tout le monde les bras ouverts, j'insiste.
Et puis en plus, votre cotisation n'est quand même pas très élevée. Ça reste très correct. Voilà, donc tout ça, ce sera mis sur le site de Radio Mono à partir de la semaine prochaine, le podcast de l'émission, qui repassera de toute façon en direct pendant une semaine. Et on mettra aussi le contact de l'association, le site et les mails.
D'accord.
Voilà. Merci. Et on vous remercie beaucoup.
Merci
le
à
nouveau
vous.
Président, M. Berthoud, et l'ancienne, Mme Porcel. Merci d'être venu.
Merci à vous.
Merci.